Une course contre la montre, tout va aller très vite. C'est lundi prochain que tout va se jouer pour la loi organique ouvrant le corps électoral. Le détail du calendrier dans ce journal. 6 affaires devant les assises de la Nouvelle-Calédonie. La prochaine session débutera lundi. 4 affaires de viol et 2 affaires de droit commun seront jugées, dont le braquage de la station mobile de la Coulée. C'était en 2022. L'actualité sanitaire et la situation est sous contrôle. Les mots d'Emmanuel Macron qui se veut rassurant pour sa première prise de parole sur l'antivirus. La ministre de la Santé, elle, joue de son côté la transparence. Bruno Retailleau veut un référendum pour trancher une question anthropologique très grave, selon ses mots. Le Sénat a rejeté pour la deuxième fois l'ensemble de la proposition de loi sur l'aide à mourir. Le sport, du cyclisme et la 4e étape du Tour d'Italie, la première d'ailleurs disputée sur le sol italien après 3 premières étapes en Bulgarie. C'est l'équatorien Jonathan Narváez qui s'est imposé au sprint. La météo en Nouvelle-Calédonie, encore des nuages et quelques averses sur les Loyautés et le nord-est, ciel souvent nuageux sur le sud-est, mais temps plutôt sec. Ailleurs, le soleil est bien présent en cours de journée. Quant aux températures, elles remontent un peu et sont proches des normales de saison avec 25 à 28 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique.
Oui, tout va donc aller très vite pour l'examen du projet de loi organique qui doit modifier le corps électoral. Et c'est lundi que tout va se passer. C'est le Congrès qui va ouvrir le bal. Il sera convoqué lundi après-midi, le 18 mai à 13h30 à Nouméa pour être consulté pour avis sur le texte qui permet l'inscription des natifs et des conjoints. La commission de la législation et de la réglementation générale s'est d'ailleurs réunie dès hier matin pour examiner le projet de loi et entendre à sa demande le sénateur Georges Naturel, dont la proposition de loi concernant l'ouverture aux seuls natifs va servir de base au gouvernement, qui va l'amender pour ajouter les conjoints. Dans la foulée de l'avis émis par le Congrès, le projet de loi organique sera examiné par la commission des lois du Sénat le 18 mai au matin à Paris, et le Sénat l'examinera en séance publique également le 18 mai, mais dans l'après-midi, le texte sera ensuite transmis à l'Assemblée nationale. Si les deux chambres du Parlement n'aboutissent pas à un vote à l'identique, une commission mixte paritaire pourra être convoquée. Et dans ce cas, il est déjà prévu un vote final au Sénat le 21 mai. Le texte sera ensuite transmis au Conseil constitutionnel. Un calendrier extrêmement court, donc, pour permettre au gouvernement de publier avant le 31 mai le décret de convocation des électeurs pour des élections provinciales qui ont été fixées, je le rappelle, au 28 juin. Dans l'actualité politique toujours, le Palika constate la fin de l'accord de Bougival et il appelle à se mobiliser pour les élections provinciales. C'est ce que l'on retient d'un long communiqué qu'il a publié hier après son congrès extraordinaire des 8 et 9 mai à Vaud, Lionel Sabot.
Le Palika considère que l'accord de Bougival-Élysée-Oudinot est désormais arrivé à son terme après le rejet du projet de loi constitutionnelle. Il prend acte de cette situation et il constate que cela ouvre une nouvelle séquence politique. L'objectif est désormais, dit-il, est d'éviter le statu quo et de préserver la trajectoire de décolonisation engagée depuis les accords de Matignon et l'accord de Nouméa. Concernant le corps électoral, le Palika rappelle que, pour lui, cette question doit être traitée dans le cadre d'un accord politique global et il considère en conséquence que c'est le corps électoral actuel qui doit s'appliquer pour les prochaines élections provinciales. Il se déclare cependant favorable à ce que la proposition d'ouverture, notamment aux natifs, soit soumise au débat et aux décisions des institutions compétentes, mais on relève qu'il n'évoque pas le cas des conjoints. Le Palika se dit aussi favorable à une reprise des discussions après les élections provinciales en affirmant ne pas être dans une logique de rupture du dialogue politique. Il estime toutefois qu'avant la reprise éventuelle des discussions, il devra renouer et renforcer les échanges avec l'ensemble des forces indépendantistes. À ce propos, le Congrès extraordinaire rappelle que le mandat des membres de l'actuelle délégation de négociation se poursuit jusqu'aux élections provinciales et que la composition des futures équipes de négociation sera décidée après le scrutin.
Et concernant les prochaines provinciales, le Palika appelle à la mobilisation. Il s'agit pour lui de créer les conditions d'un rapport de force pour porter son projet de pleine souveraineté en partenariat. De son côté, le groupe UCF-LNKS dresse son bilan au terme d'un mandat très long et très mouvementé. Il invitait la population hier soir à l'UNC pour revenir sur ce mandat débuté en 2019 et qui va s'achever avec les élections provinciales de juin. Un mandat qui avait débuté sur un programme de réforme, mais qui s'est heurté à des crises successives, déplore Pierre-Chanel Tutugoro, le président du groupe au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, au total, un mandat qui n'a pas permis de faire tout ce qui était voulu.
C'était un mandat de crise, hein, sociale, sanitaire, financière et autres. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est les réformes qui sont quand même passées au niveau de la réforme de Nickel. On a passé un certain nombre de textes qui ont été actés, validés, votés au niveau du Congrès. C'est le cas pour la redevance d'extraction de nickel. C'est le cas aussi pour la taxation, l'importation. Certaines autres réformes aussi au niveau social qui sont passées, aussi sur la partie culturelle. Donc plusieurs textes ont été votés. Il a fallu sensibiliser, motiver, mais parce qu'il y a eu aussi une écoute particulière qu'on a pu relever, parce qu'on était dans une période de crise. C'est pas évident d'engager des réformes comme ça, mais on a quand même réussi à le faire grâce à une écoute particulière de la population, mais aussi des partenaires avec qui on a travaillé pendant ce mandat.
Le groupe UCF-LNKS qui tenait à faire ce bilan avant les élections provinciales du 28 juin. Des propos recueillis hier soir par Kélinda Boiscou.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. 2 ans après le 13 mai, êtes-vous confiant dans la capacité de la Nouvelle-Calédonie à se redresser? Si vous êtes confiant, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, 90% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'avec l'antivirus, ils craignent le retour d'une épidémie mondiale. Ils sont 10% à ne pas le craindre. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 6h passées de 38 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous. On va marquer une première pause publicitaire et justement après on verra cette question de l'actualité sanitaire avec les différentes prises de position et de parole notamment à Paris mais aussi de la DAS en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Sauvant Carrelage, c'est le spécialiste des revêtements de sol et murs, intérieurs ou extérieurs, depuis plus de 50 ans. Carrelage, sol souple, pierre naturelle, margelle, dalle. Sauvant Carrelage, 16 rue Fernand Forest, à Ducos. Plus d'infos sur sauvantcarrelage.com ou sur Facebook Sauvant NC.
Bureau Vallée, mercredi pédagogique, direction Bureau Vallée, Magenta. Profitez de moins 20% sur les rayons beaux-arts, loisirs créatifs et librairies. Peinture, dessin, lecture, activités créatives, partagez de bons moments en famille, sans vous ruiner. Offre valable chaque mercredi pédagogique chez Bureau Vallée Magenta.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et comme un air de période Covid, à Paris, le gouvernement a tenu une conférence de presse digne des plus grandes heures du confinement, organisée donc cette nuit pour nous pour faire un point sur l'antivirus. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, s'exprimait aux côtés de scientifiques et juste avant une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée, dominée par cette nouvelle alerte sanitaire. Alors face aux inquiétudes des Français, l'exécutif veut jouer la carte de la transparence, Arthur Delaborde.
Tout dire tout de suite pour éviter les erreurs du passé. Le gouvernement veut afficher une parole claire et assumée avec en tête les hésitations et les messages contradictoires qui avaient marqué le début de la crise du Covid. L'exécutif préfère désormais reconnaître ce qu'il sait et ce qu'il ignore encore. C'est en tout cas la démarche assumée par la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.
Il y a des choses qu'on sait sur ce virus et c'est plutôt une bonne nouvelle, virus connu depuis les années 90. Mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas sur ce virus. Par exemple, nous n'avons pas encore totalement l'entièreté du séquençage du virus qui nous permet de dire avec certitude aujourd'hui, même si on est à ce jour plutôt rassuré, nous n'avons pas la certitude de dire que ce virus n'a pas encore muté.
Exposer ses doutes plutôt que donner de fausses certitudes, une manière aussi de montrer que le gouvernement ne veut plus revivre le scénario Covid. Stéphanie Rist a ainsi accepté d'être auditionnée demain matin à 11h par la commission des affaires sociales de l'Assemblée, audition réclamée par les députés du Rassemblement national.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, la ministre de la Santé qui donnait également des nouvelles des Français concernés par cet antivirus. L'une des ex-passagères du navire de croisière MV Ondus, testée positive, est toujours prise en charge en réanimation dans un état grave, atteinte de la forme cardio-pulmonaire la plus sévère. 8 cas contacts parmi lesquels des enfants qui avaient pris un vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg aux côtés d'une Irlandaise contaminée sont placés à l'isolement en milieu hospitalier. 14 autres cas contacts sont désormais identifiés et sont ou seront hospitalisés. Quant à Emmanuel Macron, il s'est exprimé pour la première fois sur cette maladie depuis le Kenya, où il est en déplacement. Le président de la République s'est voulu rassurant.
Aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles qui est les plus exigeants, comme l'Espagne et quelques autres, ce qui est une bonne chose, parce que nous avons l'expérience du passé. Pour autant, il ne s'agit pas de comparer ce qui n'est pas comparable. C'est un virus qui est connu, dont les caractéristiques sont différentes de ce qu'on a pu connaître au moment du Covid-19. Donc le gouvernement a pris les bonnes décisions, la situation est sous contrôle. Maintenant, il est important qu'il y ait une vraie coordination européenne, c'est-à-dire que les protocoles, je pense, aillent vers les standards les plus exigeants qui ont été définis à très court terme, et que l'Organisation mondiale de la santé puisse coordonner tout cela comme il se doit dans les prochaines étapes.
Et il y aurait donc 11 cas d'antivirus dans le monde. L'OMS en a identifié 2 de plus, mais il n'y en a aucun en Nouvelle-Calédonie. Le risque d'ailleurs que le territoire soit concerné est très faible selon la DAS, qui est évidemment mobilisée. Et Laura Dupont, responsable de la veille sanitaire et de la surveillance aux frontières et des plans d'urgence à la DAS, tient à rassurer.
La Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, n'est pas concernée par le risque d'introduction de ce virus. En fait, elle n'est pas concernée par l'itinéraire du navire ni par la recherche de personnes contact liées à la croisière. Aucun cas n'a été signalé sur le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un événement de cette ampleur inhabituelle est signalé au niveau international, nous sommes en lien avec les autorités sanitaires internationales comme l'OMS afin d'évaluer le risque et de mettre en place, si besoin, des mesures sanitaires adaptées.
La crise Covid avait pris tout le monde de court. Cette fois-ci, les autorités sanitaires peuvent anticiper les procédures éventuelles qu'il faudrait mettre en place, même si, encore une fois, le risque de voir un cas sur le territoire est très faible.
Effectivement, l'expérience du Covid est toujours bonne à prendre dans la gestion des épidémies. Pour l'instant, dans ce cadre-là spécifique, ce virus ne ressemble pas du tout à celui du Covid. On n'est pas sur les mêmes facteurs de transmissibilité entre les personnes. On se prépare de la même manière. On en essaie d'anticiper au maximum les choses avec les différents partenaires sanitaires sur le territoire. Mais le risque est faible pour la Nouvelle-Calédonie.
La situation sanitaire générée par l'antivirus est donc très différente de celle de la Covid et il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure à condition, selon Laura Dupont, d'avoir de bonnes informations.
Ce qui est à prendre en compte pour la population générale, c'est surtout de se fier à ce qui est transmis par le gouvernement et d'éviter les rumeurs et ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux.
Laura Dupont, responsable de la veille sanitaire, de la surveillance aux frontières et des plans d'urgence à la DAS.
À Radio Rythme Bleu, 6h43.
Retour à l'actualité en métropole, le sénateur LR Bruno Retailleau appelle Emmanuel Macron à convoquer un référendum sur l'aide à mourir. Le patron des Républicains estime que c'est aux Français de trancher sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, après le rejet par le Sénat en deuxième lecture aujourd'hui de la proposition de loi en ce sens. L'exécutif pourrait aussi laisser la navette parlementaire suivre son cours et donner le dernier mot aux députés. L'actualité à l'étranger à présent, l'étendue de l'horreur des attaques du 7 mai 2023, soulignée dans un nouveau rapport indépendant dévoilé aujourd'hui en Israël. Plus de 2 ans et demi après les massacres sans précédent perpétrés par le Hamas, une commission créée par une juriste israélienne chargée d'enquêter sur les crimes sexuels commis lors de l'attaque. Ce document de plusieurs centaines de pages confirme l'utilisation des violences sexuelles comme une arme redoutable, Frédéric Simon.
Une arme redoutable dont les terroristes du Hamas et d'autres organisations ont fait usage d'une manière systématique, méthodique et planifiée. C'est là l'une des principales conclusions du rapport de 300 pages rédigé par la commission civile sur les crimes commis le 7 octobre 2023 par le Hamas sur des femmes et des enfants. Pendant de longs mois, les experts de la commission ont recueilli pas moins de 430 témoignages émanant des victimes elles-mêmes, mais aussi de leurs proches et de témoins. Ils ont également scruté et étudié plus de 10 000 documents visuels. En résulte un rapport glaçant, détaillant les différents types d'agressions sexuelles commises par les terroristes, viols, viols en groupe, agressions sexuelles devant les proches des victimes, agressions sexuelles post-mortem, des atrocités souvent filmées, projetées aux familles des victimes et retransmises en direct sur les réseaux sociaux. L'objectif était non seulement de supplicier et d'humilier les victimes elles-mêmes, mais aussi de terroriser l'ensemble de la société israélienne. Un rapport effroyable donc, mais d'une grande utilité. Il fallait s'assurer, affirment ses auteurs, que la souffrance endurée par les victimes ne soit ni déniée, ni effacée, ni oubliée.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, l'État hébreu qui vient par ailleurs d'envoyer aux Émirats Arabes Unis des batteries de défense antiaérienne Dôme de Fer en vertu des accords d'Abraham signés entre les deux pays pour normaliser leurs relations. Les Émirats visés à des milliers de reprises par des missiles et des drones iraniens depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Pour l'instant, le cessez-le-feu en Iran tient toujours, même s'il est très fragile et qu'aucun accord ne semble se dessiner entre Washington et Téhéran, au lendemain du rejet par Donald Trump des propositions iraniennes pour mettre fin à la guerre. Et en cas de nouvelle offensive américaine, la République islamique menace désormais d'enrichir son uranium à 90%, le taux nécessaire pour fabriquer la bombe atomique. Il est 6h46, vous écoutez Radio Rythme Bleu, merci d'être avec nous. Une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et notamment la présentation de la prochaine session d'assises avec 6 affaires qui seront jugées.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
C'est bon, sac poubelle changé.
Déjà ?
Eh ouais, c'est normal, c'est les sacs poubelles Pratisac.
Ah ?
Les liens coulissants Pratisac, tu tires et hop.
Ah ouais, fini les nœuds.
Pratisac, les sacs avec liens coulissants, solides, pratiques, de 30 à 120 litres. Pratisac, tu tires et c'est dans le sac.
Direction Koumac pour les journées portes ouvertes du RSMA. Samedi 23 et dimanche 24 mai de 9h à 18h, venez découvrir le RSMA, ses formations et ses volontaires. Au programme, animation pour petits et grands, démonstrations, bingo et tournois de pétanque. Entrée gratuite et restauration sur place. Toutes les infos sur Facebook. Ne manquez pas fin mai les journées portes ouvertes du RSMA à Koumac.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite de votre journal avec l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Actualité judiciaire avec la présentation hier après-midi de la deuxième session d'assises de l'année. Une session qui débutera lundi, le 18 mai, et qui se clôturera le vendredi 5 juin. L'avocat général Pierre-Yves Michaud a détaillé les dossiers qui seront jugés pendant ces trois semaines. 4 affaires de viol, dont un incestueux sur mineur, et 2 affaires de droit commun, soit 6 affaires en tout. Pierre-Yves Michaud, l'avocat général.
Autant la précédente session, on avait pu respecter un équilibre entre les dossiers de mœurs et les dossiers de droit commun. Là, pour cette session, ça n'a pas été le cas. Nous avons dû audiencer en majorité des dossiers de mœurs, des dossiers de viol, agression sexuelle, parce qu'ils sont malheureusement assez nombreux entre stock. Donc nous avons 4 dossiers de mœurs, 4 dossiers de viol par conjoint, de viol sur mineur de 15 ans. Il y a même un dossier qui relèvera de la cour d'assises des mineurs. Et 2 dossiers, je dirais, de droit commun. Un dossier de braquage, c'est le braquage de la station mobile de La Coulée, hein, au mois d'octobre de 2022. Et un dossier de vol aggravé, vol suivi d'infirmité permanente.
En 2026, la Cour d'appel de Nouméa prévoit 4 sessions d'assises. La première s'est déroulée en début d'année, la deuxième vient d'être présentée. Les 2 dernières auront lieu un petit peu plus tard dans l'année et seront allongées pour juger plus de dossiers. Une instruction de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. La Cour d'appel de Nouméa qui s'est vue donc assigner un objectif de 28 dossiers criminels à juger par an.
Chaque session sera rallongée d'une semaine, ce qui devrait nous permettre de juger en moyenne au moins 8 dossiers par session, pour atteindre une bonne trentaine de dossiers criminels jugés par an, pour répondre un peu à cette problématique de saturation des stocks des cours d'assises sur le territoire de la France. Donc nous allons cette année atteindre cet objectif sans difficulté, mais nous allons même, à partir des années suivantes, très probablement réussir à aller au-delà pour juger entre 30 et 35 dossiers, afin à la fois de répondre aux objectifs qui nous sont assignés, mais aussi pour faire en sorte que les dossiers criminels puissent être jugés dans des délais raisonnables.
La deuxième session d'assises de l'année débutera donc lundi 18 mai au matin par le traditionnel accueil des jurés. Le premier dossier sera traité le lendemain, le mardi 19 mai, et le surlendemain, le mercredi 20 mai. L'actualité économique, la Calédonie, capitale French Tech. Elle vient de recevoir ce label qui concrétise un engagement fort des acteurs de la tech, privés ou publics. Une reconnaissance, mais aussi, Lionel Sabot, des perspectives de développement.
Oui, la French Tech est une mission de l'État rattachée au ministère de l'Économie et des Finances et vise à soutenir le développement des startups innovantes. C'est en 2020 que la French Tech a pris son essor en Calédonie, 7 ans après son lancement en métropole. Sous l'égide de plusieurs chefs d'entreprise, avec le soutien des élus, la Calédonie a été labellisée Communauté French Tech en 2020. Aujourd'hui, cette nouvelle labellisation de capitale French Tech est donc un nouveau pas important, a souligné le haut commissaire Jacques Billon, qui a rendu officielle la nouvelle labellisation.
La Nouvelle-Calédonie est déjà labellisée depuis 2020. Elle était Communauté French Tech, ce qui veut dire qu'on avait vu en elle un territoire à fort potentiel. Et tout le travail qui a été mené a permis de concrétiser ce potentiel et d'obtenir la labellisation capitale French Tech. En 6 ans, on devient la deuxième capitale French Tech d'outre-mer. Il y a La Réunion, aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, et le réseau au niveau national comprend au total 17 capitales French Tech. On est vraiment au cœur de la dynamique en Nouvelle-Calédonie, c'est une excellente nouvelle.
Et si la French Tech est une mission de l'État, elle a été soutenue par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et notamment par Christopher Gigès en charge du numérique. Cette nouvelle labellisation va apporter des changements notables, a-t-il expliqué.
Ça change au niveau de la visibilité de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on va siéger au board de la French Tech nationale pour avoir des décisions. Ça apporte des financements complémentaires pour le développement de la tech et de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Ça améliore l'attractivité du territoire parce que ça montre une certaine source de confiance, c'est-à-dire que l'État nous fait confiance pour être son représentant au niveau du Pacifique pour le développement de ce secteur. Donc ça apporte plein de choses, ça apporte du positif. Et je crois qu'en ce moment, on a besoin de positif. Donc déjà, rien que ça, c'est une bonne chose.
La présidente de la province sud était présente au moment de l'annonce de la labellisation Capital French Tech. La province a toujours soutenu, financièrement parlant, l'écosystème de la tech en Nouvelle-Calédonie. Sonia Bakès a expliqué pourquoi.
On a besoin d'avoir des messages de confiance pour générer de l'attractivité. L'attractivité d'entreprises de tech, de gens qui verraient la Nouvelle-Calédonie avec un regard tourné vers l'avenir. Et ce label aujourd'hui, cette consécration d'être Capital French Tech, ça prouve que la Nouvelle-Calédonie est capable de se tourner vers l'avenir et d'attirer des talents dans le domaine de la tech. Et je pense que c'est un moment important.
Et aujourd'hui, la French Tech Nouvelle-Calédonie vient donc de franchir un pas important, une réussite, souligne son président Atem Beladji.
Un travail qui a commencé en 2019. Et petit à petit, les graines ont été semées. On a impulsion des politiques et également un premier noyau qui a commencé à travailler avec un ensemble de dispositifs qui sont mis en place petit à petit. Ça a donné l'engouement jusqu'à arriver à prouver qu'on est en capacité d'être une première fois communauté et assez rapidement, ça fait 6 ans, mais quand même au niveau national, c'est quand même une reconnaissance assez rapidement de créer une dynamique suffisamment mature pour qu'on soit reconnu au niveau national. Ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des moyens, ça nous ouvre aussi une capacité de discuter avec que ce soit l'écosystème d'innovation au niveau national, les fonds d'investissement, les instances gouvernementales, et c'est pour ça une réussite pour nous.
La Nouvelle-Calédonie est donc devenue le porte-avions de la tech française dans le Pacifique. La French Tech Nouvelle-Calédonie ambitionne de créer le Hub Pacific Tech qui vise à connecter et à structurer les écosystèmes tech du Pacifique Sud autour de filières communes.
Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Ce matin, nous parlerons histoire avec notre invité à 7h30. Hier, Géry Delatière a remis aux archives de la Nouvelle-Calédonie les 3 tomes de son ouvrage « Une terre pour un crime » qui se veut être la mémoire de la colonisation pénale sur les villages de Lafoy et Farino. On en parle donc ce matin avec Géry Delatière qui sera notre invité tout à l'heure à 7h30. Et puis un invité exceptionnel dans notre édition de la mi-journée. Nous recevrons l'aventurier et écrivain Patrice Franceschi qui est de passage sur le territoire. Il évoquera ses derniers voyages et ses engagements, notamment auprès des chrétiens d'Orient. Et il sera interrogé sur son dernier ouvrage, Le passage du temps, dans lequel il réfléchit à la façon dont l'expérience passée peut continuer à éclairer le présent. Une interview de Patrice Franceschi à suivre dans notre édition de 11h30. En attendant, il est 6h54. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive avec Lionel Sabot.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour la fête des mères, faites fondre son cœur avec Maison Thirier. Découvrez notre rose glacée à 3490 francs au lieu de 3990 francs. Sorbet fraise framboise, crème glacée vanille bourbon et meringue croquante, un moment magique, édition limitée. Offre valable jusqu'au 31 mai dans la limite des stocks dans vos magasins Thirier et stations mobiles partenaires. Maison Thirier, seul le bon crée du bonheur.
Parce que chaque instant compte, AXA protège ce qui est précieux. Votre famille, votre santé, vos biens et votre épargne. AXA, plus qu'une assurance, un partenaire de confiance au quotidien.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on commence avec du cyclisme. On courait cette nuit la quatrième étape du Tour d'Italie avec une victoire équatorienne dans les rues de Cosenza.
Oui, après un début de Giro cauchemardesque, Jonathan Narvaez a rendu un peu le sourire à l'équipe UAE. Jusque-là, cette 109e édition avait été une nuit sans fin pour la formation émiratie qui a perdu, rappelons-le, trois de ses coureurs, dont Adam Yates, dans une terrible chute collective. C'était en début de Giro. Dès le retour du Giro sur le sol italien et après trois premières étapes en Bulgarie, l'équipe UAE a donc pu savourer sa toute première victoire d'étape sur ce Tour d'Italie. Jonathan Narvaez, le champion d'Équateur, qui a raté tout le début de la saison à cause de plusieurs fractures aux vertèbres après un vilain crash sur le Tour Down Under, pas loin de chez nous en Australie, s'est imposé lors de cette quatrième étape. Au classement général, c'est l'Italien Giulio Ciccone qui fait la bonne opération et qui endosse le maillot rose de leader.
Du football également ce matin avec le début des barrages d'accession à la Ligue 1.
Oui, effectivement, et en ce moment, le Red Star qui a terminé à la quatrième place du classement général de la Ligue 2 reçoit Rodez qui a terminé en cinquième position. Les deux équipes, après 67 minutes de jeu, sont à égalité deux buts partout. Le vainqueur de ce match rencontrera en fin de semaine l'AS Saint-Etienne qui avait fini troisième du championnat de Ligue 2. Et le vainqueur de ce match Saint-Etienne, Red Star ou Rodez affrontera le 16e de Ligue 1. Ne me demandez pas qui c'est. Pour le moment, c'est Nice, mais il reste encore une journée à jouer en Ligue 1.
Le sport dans la région, avec oui. De la natation. Et là, je vous demande de me parler des Océania au Fidji qui se terminent aujourd'hui.
En effet, 9 jeunes Calédoniens sont engagés et réalisent de belles performances, hein, même face aux nageurs australiens et néo-zélandais. La délégation calédonienne compte 6 médailles, 3 de bronze, 2 d'argent et 1 d'or, de l'or décroché par Anaï Delande. Elle a remporté la finale du 400 mètres nage libre en signant par ailleurs la meilleure performance calédonienne de l'histoire chez les 14-15 ans.
C'était génial, c'était une course de folie. Avec un dernier 50 mètres qui était très difficile. Les 5 derniers mètres, j'ai tout donné et j'ai pensé que ça allait faire plaisir à tout le monde et je suis vraiment fière de moi. Bien sûr, une médaille d'or aux Océania, c'est pas rien, c'est vraiment génial. Je suis partie assez vite, environ 2 secondes plus vite que sur le 200 mètres du matin. Ma concurrente, je lui ai mis d'abord 10 mètres, mais elle a un meilleur retour. Donc oui, c'était assez stressant, mais j'ai tenu bon et ça a marché.
Et la dernière journée des Océania de natation au Fidji, c'est donc aujourd'hui avec plusieurs épreuves en eau libre, dont le 5 km et relais à 4 fois 1500 mètres.
Et enfin, le sport calédonien en deuil. On a appris le décès de Thierry Navarro des suites d'une longue maladie à l'âge de 64 ans. Thierry Navarro était très impliqué dans le tennis, le rugby, le squash et le golf. En squash, il avait d'ailleurs été médaillé d'argent aux Jeux du Pacifique. C'était en 1991 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Thierry Navarro était aussi bien connu dans le monde économique puisqu'il fut le directeur des Briconautes. À sa famille et notamment à son frère Patrick et à ses proches, Radio Rythme Bleu adresse ses plus sincères condoléances. Les obsèques de Thierry Navarro seront célébrées aujourd'hui.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, la pointe sud, le sud-est et l'éloité conservent un ciel chargé avec quelques ondées. Le sud de la côte ouest retrouve de belles éclaircies, mais des ondées isolées ne sont pas exclues, surtout en début de matinée. Ailleurs, le soleil sera généreux. Le vent pour ce matin, orienté au sud-est, autour des 15 à 20 nœuds. Il sera de l'ordre des 15 nœuds sur le nord-est et l'extrême sud-ouest. Cet après-midi, encore des nuages et quelques averses sur les loyautés et le nord-est. Le ciel souvent nuageux sur le sud-est et plutôt sec ailleurs. Ailleurs, le temps sera bien ensoleillé sur les autres régions. Sur l'extrême sud, marée en du vent à présent orienté sud-est pour cet après-midi. 15 nœuds. Ailleurs, il sera entre compris entre 15 et 20 nœuds et jusqu'à 20 nœuds sur l'extrême nord. Les températures en général 25-28 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Il sera évidemment disponible en réécoute sur le www.rrb.nc.
Toute l'info en trois lettres, RRB.